Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Députés, on appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réelle. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour. Eh bien, c'est donc contre-histoire aujourd'hui. Je vais emprunter les mots de Claude Mutafian pour commencer cette émission. En France, quiconque a un ami dont le nom se termine par « ian » sait qu'il appartient à une diaspora rescapée du génocide commis par les Turcs. Pourtant, un pays existe depuis 30 siècles. Pourtant, en Anatolie, les pierres des vieilles églises oubliées témoignent encore du passé. Avec la simplicité de Prévert, nous dirons « Le temps nous égare, le temps nous étreint, le temps nous est gare, le temps nous est train. » Car aujourd'hui, dans le monde entier, on commémore le génocide des Arméniens de 1915. Et pour le faire, peut-être utilement, il vaut mieux remonter dans l'histoire, la grande histoire. Noé et son arche, les Mèdes, les Perses, les Turcs, la bataille d'Avarahir, toujours fêtée. La rupture de l'Église chrétienne d'Arménie avec Rome, les catholicos, l'histoire grecque et l'histoire romaine, les Mongols, Byzance, les croisades, Guy de Lusignan et son neveu, le dernier roi Léon V d'Arménie, qui repose dans notre basilique Saint-Denis avec les rois de France, oui, oui. Et Tamerlan et Venise et la Russie. Et la Première Guerre mondiale. La France a toujours été, par la volonté de ses souverains, un État centralisé, concentré autour de l'Île-de-France, même si ses frontières ont été assez mobiles au cours de l'histoire, selon les victoires ou les défaites, avec des régions rassemblées sous la couronne, sans toujours une véritable unité. Par contre, l'Arménie, plus qu'un État, a présenté toujours une nation homogène par sa culture et sa langue, mais dispersée souvent, en plusieurs États, et sur un territoire très variable. En gros, entre Antioche, vous voyez Antioche, hein, c'est au nord du Liban, hein, donc entre Antioche et la Caspienne, à l'est, et la mer Noire, au nord. La mer Noire, maintenant, tout le monde sait ce que c'est, hein, tout le monde sait où c'est. Hein. Bon. Ce pays des pierres a évolué géographiquement selon les régimes politiques de ses puissants voisins, qui ont toujours grignoté ses frontières quand c'était pas carrément installé à sa tête des souverains de leur camp, provoquant bien sûr des diasporas. Depuis la nuit des temps.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. C'était 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères, pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient à la France en s'abattant.
Alors, pour remonter les siècles, nous allons suivre sur ce qu'on appelle en mathématiques un vecteur. Les heures et malheurs du peuple arménien depuis plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Oui, vous allez donc prendre 4 feuilles A4, vous voulez scotcher par le petit côté et tracer votre vecteur sur toute la longueur obtenue. Une marque tous les 5 cm, ça marquera les siècles. Et on y va. On commence donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez que Noé avait échoué avec son arche sur une terre dont on a traduit le nom par Ararat. C'était en fait le nom de tout un pays, dont une autre traduction des caractères cunéiformes assyriens donnait le nom assez proche d'Urartu. Urartu. Jusqu'à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, les Mèdes régnaient sur la région. Et on trouve sur les bords du lac de Vannes, on trouve les restes d'une cité, Erevouni, qui doit être la première localisation de la capitale arménienne d'Erevan. Le B et le V sont encore interchangeables autour de la Méditerranée et en Occitanie, n'est-ce pas? Puis, l'empire médique d'Assyrie s'écroule et l'Urartu, qui devient l'Arménie, s'intègre dans l'Empire perse, sous la dynastie des Achéménides. Xénophon, qui s'est promené par là au début du siècle suivant, en parle. En 331, vous marquez bien, hein? 5 cm pour 100 ans, hein? En 331 donc, avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand détruit l'Empire perse des Achéménides et libère l'Arménie. C'est l'avènement de la dynastie arménienne des Orontides, à Armavir, sur le fleuve Arax. Le fleuve Arax, c'est vraiment le berceau des Arméniens, de l'Arménie traditionnelle, même si les communautés arméniennes se sont promenées entre justement l'Arax et la Caspienne et quasiment la Méditerranée. Alors donc, dynastie arménienne des Orontides à Armavir sur le fleuve Arax, tout près de l'actuel Erevan. En 190 avant Jésus-Christ, voilà les Romains qui écrabouillent les Séleucides, successeurs d'Alexandre le Grand. La dynastie des Orontides s'arrête là, pour laisser la place aux Artaxiades, dont la capitale sera Artaxata, aussi appelée Artacha. Toujours sur l'Arax, mais un peu plus au sud-est, plus proche encore de la future Erevan. En 66 avant Jésus-Christ, voilà Pompée qui met une peignée au roi Artaxarade, Tigrane le Grand. Romains et Parthes d'Iran se mettent d'accord pour installer sur le trône d'Arménie Tiridate le Parthe, pourvu qu'il soit couronné par Néron. C'est le début de la nouvelle dynastie Arsacide en 63 avant Jésus-Christ. Alors les Parthes vont régner jusqu'en 224 de notre ère, hein, ça fait un bail. Date à laquelle leur succèdent les Perses Sassanides, hélas beaucoup plus durs que les Parthes avec les Arméniens. Au IVe siècle, le roi Tiridate, dont je n'ai pas le numéro, ils se sont succédés un peu comme nos Louis, le roi Tiridate régnant donc sur l'Arménie, impose le christianisme comme religion d'État. En 387, l'Arménie est partagée entre Rome et la Perse, avec maintien d'un royaume arménien sous domination sassanide, donc perse, jusqu'en 428. Au début du 5e siècle, le moine Mesrop Mashtot crée le premier alphabet arménien qui assurera l'épanouissement de la culture arménienne. Et là, on arrive en 451 à une date très très importante qui montre la vigueur de la personnalité arménienne, de sa culture, son dynamisme, etc. 451, soulèvement contre les Sassanides et leur zoroastrisme qu'ils voulaient imposer par leur gouverneur persan. Alors, il y a la bataille d'Avarahir, dont on parlait tout à l'heure, bataille menée par le général Vardan Mamikonian, qui y est tué, mais qui reste le plus grand héros arménien. Et on célèbre donc toujours, chez les Arméniens, on célèbre toujours la bataille d'Avarahir. Les Perses sassanides renoncent à imposer leur religion tellement ils sont impressionnés par cette bataille d'Avarahir et par le courage et le génie du général Vardan Mamikonian. Alors arrive toujours en 451 quelque chose de très important. Il y a un concile de l'Église romaine, bien sûr, un concile à Chalcédoine, qui donne une définition romaine de la nature du Christ, c'est-à-dire Immaculée Conception, etc., etc., et je suppose Résurrection, je n'ai pas étudié la question à fond, mais ça va venir. En 550, l'Église chrétienne arménienne est déclarée hérétique parce qu'elle ne reconnaît pas les conclusions du concile de Chalcédoine. Elle consacre alors ses patriarches, appelés catholicos, comme régents de l'Arménie en cas de vacance du pouvoir royal. L'Église est donc pilier de l'État, avec la royauté et les grandes familles. Alors, on va se faire une petite pause avec une musique arménienne avec un morceau de Tigran. Nous disions donc qu'en 550, l'Église chrétienne arménienne a été déclarée hérétique parce qu'elle ne reconnaissait pas les conclusions du Concile de Chalcédoine. Et qu'à la suite de ça, les catholicos de l'Église chrétienne arménienne ont pris une grande importance au niveau gouvernemental. L'Église arménienne est donc devenue un pilier de l'État, avec la royauté et avec les grandes familles aristocratiques arméniennes. Bon. Après 650, c'est les Arabes qui arrivent. Ils arrivent, ils prennent la place des Sassanides en Arménie orientale, tout en respectant son autonomie. Alors les catholicos et les aristocrates arméniens relaient les pouvoirs du calife pour les uns et de l'Empire romain, décentré à Byzance, pour les autres. La famille Mamikonian se révolte souvent contre les Arabes qui la déciment. La famille des Bagratides la remplace et profite de l'affaiblissement du califat pour restaurer une dynastie arménienne qui aura Ani comme capitale. Ani, c'est au nord de l'actuel Erevan. Et Ani sera capitale pendant plus d'un siècle. Plusieurs royaumes arméniens voisinent alors, menacés d'un côté par la puissance de Byzance et de l'autre par la Turquie seldjoukide. Les seldjoukides, c'était la dynastie turque au pouvoir à l'époque. En 1045, voilà les Grecs qui arrivent et qui prennent la capitale d'Ani. Laquelle Ani sera reprise par les Turcs, qui poursuivent leur conquête de l'Asie mineure après leur victoire de Manzikert en 1071 contre l'armée romaine byzantine. En guise de compensation, les Arméniens reçurent quelques fiefs dans une région beaucoup plus à l'ouest d'Ani, en Cappadoce, qu'on appellera l'Arménie mineure. Ça les arrange pour faire un tampon entre Byzance et l'Empire turc. Mais les Arméniens vont y recréer un royaume. Reprenons notre vecteur. Il est à jour, hein? On en est au XIe siècle. À cette fin du XIe siècle, arrivent, tagada tagada, les Francs. C'est la première croisade. Les Francs s'installent à Antioche, à Tripoli, à Jérusalem, et constituent encore une nouvelle force locale, sans s'allier pourtant aux Arméniens, dont ils vont éliminer même les princes de la région de l'Euphrate. En 1198, les princes roubénides, arméniens de Cilicie, la Cilicie c'est au nord d'Antioche, hein, ça fait l'angle de la Méditerranée au nord du Liban. Donc les roubénides arméniens de Cilicie restaurent une royauté arménienne en faisant des alliances locales diverses. Ainsi, Léon Ier est reconnu roi d'Arménie par le pape et les empires romains et germaniques. Il s'ensuit une francisation de l'État, du droit et de la langue. Les unions sont multipliées avec des familles ouest-européennes et franques. Par exemple, les Ibelins, et puis les Lusignans de notre Charente-Poitou, à Chypre en particulier. Alors qu'en Grande Arménie, autour du lac Van et de l'Arax, hein, l'Arménie actuelle, plusieurs dynasties arméniennes, les Akkarides, les Bagratides, etc., installent, au sud de la Géorgie, des principautés autonomes. Dès le XIIIe siècle, vous y êtes sur le vecteur, hein? Dès le XIIIe siècle, les descendants de Léon Ier, qu'on appelait les Étoumides, se heurtèrent aux envahisseurs mongols qui déboulent et qui venaient de soumettre la Géorgie et les princes de la Grande Arménie. Étoum Ier, gendre de Léon Ier, s'allia aux Mongols en faisant de l'Arménie avec Chypre le plus puissant État chrétien du Levant. Roi, prince et catholicos de tous les territoires arméniens étant reconnus par les Mongols et aussi par les communautés arméniennes essaimées en Anatolie Seljoukide, donc turque, en Italie ou en Crimée génoise. Mais au milieu du siècle, arrivent encore, tagada tagada, arrivent les Mamelouks, qui ont pris le pouvoir en Égypte et en Syrie. Ils chassent les Francs à la fin du siècle et s'attaquent sans relâche à l'Arménie affaiblie par la perte de soutien mongol. Les souverains étoumides se tournent alors vers l'Europe, le pape et la France en particulier. Mais comme toute aide est subordonnée à leur retour dans le sein de l'Église romaine, et malgré les nombreuses conversions obtenues par les franciscains et les dominicains, l'aide est infime, pour ne pas dire inexistante. En 1375, ça va toujours le vecteur ? En 1375 donc, le royaume d'Arménie s'amenuise. Les Mamelouks prennent la capitale Cis, au nord-ouest d'Antioche. Ils enlèvent Léon V en Égypte. Léon V est libéré par le roi de Castille et il va œuvrer pour arrêter les combats franco-anglais, déjà, en vue de la nouvelle croisade. Il meurt en France en 1393 et sa pierre tombale, avec son gisant, voisine avec les tombes des autres rois de France à la basilique de Saint-Denis, comme je vous disais tout à l'heure. Jusqu'à la fin du XIVe siècle, en Cilicie et en Grande Arménie, les Arméniens sont alors soumis, devinez à qui ? À Tamerlan. À Tamerlan et à ses ravages. Vague d'émigration un peu partout, jusqu'en Pologne. Un catholicos s'installe à Etchemiadzin, en concurrence pacifique avec celui de Cis en Cilicie. Le XVIe siècle partage l'Arménie entre l'Empire ottoman sunnite, qui annexe Cilicie et Arménie occidentale, et la Perse chiite, qui s'attribue l'Arménie orientale et Etchemiadzin. Les sultans ottomans installent à Constantinople un patriarche arménien qui leur servira d'interlocuteur avec les chrétiens non grecs. Au début du XVIIe siècle, ça va toujours le vecteur, le Shah Abbas Ier déporte, ça commence, vers Ispahan, la population arménienne depuis son foyer originel de la vallée de l'Arax. Ceux qui arrivèrent au bout du voyage créèrent par la suite la nouvelle Djoufa, qui devint un haut lieu culturel et commercial arménien. Une imprimerie en particulier y fonctionna à partir de 1636. Alors, les Arméniens me rappellent une autre population soumise depuis la nuit des temps, au pogrom et à l'exil, et à laquelle on reproche souvent, faute de mieux, d'incarner ici et là un certain pouvoir intellectuel, voire économique. Les neurones étant la seule chose qu'on n'arrive pas à voler aux proscrits, il n'y a rien à faire. Le désespoir et le courage en feront toujours quelque chose. Mais retournons en Arménie. Sa faiblesse attira les missions catholiques, françaises en particulier, en Arménie et dans les communautés de la diaspora. Ainsi, au début du XVIIIe siècle, le patriarche avédique de Constantinople fut enlevé par la France et embastillé. Et la légende le compte même au nombre des candidats au titre de l'homme au masque de fer, ça vous dit rien? Au même moment, Mekhitar de Sébaste, catholique arménien, échappe aux persécutions et fonde avec ses disciples, à Venise d'abord, et puis à Vienne, son propre ordre religieux, sauvant ainsi la culture arménienne occidentale de plus en plus menacée par les Turcs. Mais c'est pas tout, Voilà les Russes. En 1830, la Russie avait annexé presque toute l'Arménie perse et une partie de l'Arménie ottomane. Elle y ajouta en 1878 les régions de Kars et d'Ardahan. Ardahan, après une nouvelle peignée aux Turcs. S'ensuivit une politique de russification, avec fermeture des écoles arméniennes ou des églises, ou les deux à la fois, les Arméniens étant aussi considérés comme hérétiques aux yeux des orthodoxes russes. Parce que c'est pas pareil, et que je viens donc de le découvrir en farfouillant partout pour cette émission, et que ça donnera lieu à une autre émission sur la question. Parce que le christianisme arménien, qui ne prend pas les gens pour des demeurés à qui on raconte n'importe quoi, voilà une chose drôlement intéressante. Patience. Donc, tenaille russe d'un côté, et de l'autre, toujours, tenaille turque. Alors la musique ne doit pas être arménienne, mais le pianiste, je le garantis, c'est toujours Tigrane. Le pouvoir turc pouvait être sympa dans ses jours de gloire, mais se montra carrément tyrannique au XIXe siècle de sa décadence. Fallait bien trouver un bouc émissaire, et en la matière, les Arméniens avaient fait leur preuve. Les Européens, dont la France, ont bien tenté de limiter les dégâts. Je vous parlerai l'année prochaine pour le centenaire de cet affreux épisode de l'histoire arménienne. Je vous parlerai du traité de San Stefano. Mais la conférence de Berlin a annulé les efforts du traité de San Stefano. Et l'Empire ottoman, ou ce qu'il en restait, ne trouva plus à sa portée que les Arméniens pour se défouler des humiliations infligées par les Européens. Et on en arrive au génocide. Alors je redonne la parole à notre spécialiste, notre historien spécialiste. Le processus commença à se mettre en place sous le règne d'Abdulhamid II, avec les massacres de 1894-96. Le sultan rouge fut démis en 1908 par les jeunes turcs, un conglomérat où se côtoyaient les tendances réellement modernistes et des courants chauvins et racistes. L'année 1909 vit une nouvelle vague de massacres en Cilicie cette fois. En 1913, le pouvoir fut accaparé par la frange la plus extrémiste qui prépara, par son horreur Talat Pacha, ministre de l'Intérieur de la Turquie, qui prépara un plan de déportation de toute la population arménienne de l'Empire. La guerre mondiale éclata en 1914. L'Empire ottoman choisit le camp des puissances centrales et en 1915, il mit en œuvre le génocide des Arméniens, qu'on appelle aussi le brouillon de Hitler. L'Arménie occidentale fut rayée de la carte. Il ne restait alors plus que l'Arménie orientale, dont une partie devint la République d'Arménie, une première fois de 1918 à 1920, puis de nouveau en 1991, après 70 ans d'Arménie soviétique. Donnons enfin la parole au plus français des Arméniens qui nous donne un message de paix et de rare intelligence. Vous aurez deviné, je parle de Robert Guédiguian. Les premiers rescapés du génocide arménien arrivèrent à Marseille en septembre 1922 en provenance de Turquie, Syrie, Liban, Grèce. Ils s'entassèrent dans les hôtels meublés du quartier Belsunce et de la gare Saint-Charles, où un camp de réfugiés vit le jour. Devant l'afflux, un autre campement de fortune se constitua dans le quartier des Égalades. Ainsi naquit la communauté arménienne de Marseille. Demander à Robert Guédiguian de raconter la suite, c'est s'assurer un regard original et généreux sur une ville irréductible au sens littéral, qui ne peut être réduit, simplifié. Plutôt qu'un bilan historico-politique, le cinéaste en profite pour développer sa réflexion sur l'identité. Je suis né à Marseille. Cette cité ne m'inspire pas. Elle me fonde. Comme tous les Marseillais, mes origines sont mêlées. Mon père est arménien, ma mère est allemande. Mais comme tous les Marseillais aussi, mes origines me préoccupent peu. Lorsque l'on me demande qui je suis, je réponds. Je suis un fils d'ouvrier, né à l'Estac, dans les quartiers nord. Le quartier passe toujours en premier dans cette ville. Voilà mon identité, ma culture et ma morale, et ma langue. J'ai rédigé ces lignes en note d'intention de mon film « L'argent fait le bonheur ». Elles résument parfaitement ma réflexion sur l'identité. Je crois qu'on ne construit rien sur une identité rigide, qui n'est que du côté des racines et du passé. Je crois aux identités multiples. On ne peut pas y échapper dans notre monde globalisé, avec les transferts de population, les passages en Europe d'un pays à l'autre, les voyages et les échanges permanents. D'un point de vue optimiste, car je suis quelqu'un d'optimiste, une identité multiple, c'est quelque chose de très riche. Ma mère est allemande, mon père est arménien, et moi je suis née à Marseille dans un bastion communiste, l'Estac. En République française, Ce dernier élément étant très important, car je ne serais pas cinéaste sans l'école laïque. Toutes ces influences se mélangent, avec une grande porosité. Tout ça se contamine. C'est comme s'il y avait une identité réelle, c'est-à-dire l'identité citoyenne, là où j'habite, là où je travaille, et une identité rêvée que l'on peut construire. Les racines, au fond, ça me va et ça me va pas. En aucun cas, elles ne doivent m'empêcher d'avancer. Les revendications identitaires ne doivent en aucun cas être régressives. La conception étroite, radicale, est menée par des personnages qui veulent en faire un usage, un profit. Je répète, la conception étroite, radicale, est menée par des personnages qui veulent en faire un usage, un profit. Je suis née en 1953 et à ce moment-là, la question de l'identité se posait moins que celle de la lutte des classes et l'appartenance à ce quartier de l'Estac. Être d'origine arménienne et allemande aussi, ça passait très loin dans l'ordre de mes préoccupations. En période de plein emploi, il n'y a pas de racisme ou de repli communautaire. Il faut être clair là-dessus. Enfant, je jouais avec mes copains espagnols et kabyles sans que la question de nos racines soit jamais abordée. Dans ces années 60 à Marseille, c'est une période bénie. Les gens travaillent et sont solidaires. La ville est à cet instant tout à fait fidèle à ses traditions de métissage. Marseille est probablement, depuis sa fondation, comme New York, une ville métissée. Quelque chose s'est diffusé pendant des siècles sur la nécessité de se mélanger. L'emblème de Marseille, c'est l'impureté. Je suis un inconditionnel du métissage, sans angoisse de la dissolution. Une famille, ce n'est pas un étouffoir. Lorsque ça le devient, je le conteste. Je n'aurai jamais de complaisance si, d'un coup, quelqu'un que j'aime s'opposait au mariage de sa fille avec un non-arménien. J'avance le concept de double, de triple identité, face à l'absence d'identité que nous propose et même que nous impose le modèle capitaliste. Dans mon enfance, personne ne s'est assis pour me dire « voilà ce qui s'est passé pendant la catastrophe ». Mes grands-pères paternels ainsi que ma tante avaient 4 et 6 ans lors de leur déportation dans le désert. Ma grand-mère venait de Vannes, mon grand-père, lui, était originaire de Sivas. Je ne sais que des petites choses de cette Arménie-là. L'Anatolie d'aujourd'hui, chez moi, il n'y a donc pas de souvenirs construits, militants, pas de discours sur le génocide. Les faits demeuraient confus. On parlait de la sœur de ma grand-mère qui s'était suicidée en se jetant par la fenêtre de son couvent pour ne pas être violée. Un oncle qui était resté perdu dans les colonnes de déportation avant d'être recueilli par les Bédouins racontait sous la forme de blagues qu'il arrachait des herbes et qu'il avait mangé des racines pendant un an. Ma tante, elle, se souvenait qu'il y avait de l'or dans sa ceinture et que ça la grattait. Je ne me suis jamais inventé une biographie en lien avec le génocide. Je ne vis pas ça dans ma chair tous les jours, de manière sensuelle et profonde. Non, je ne vis pas cette douleur-là. D'autant que, pour être honnête, c'est mon côté allemand qui a dominé ma jeunesse. Mon père, né à Marseille en 1920, a rencontré ma mère alors qu'il effectuait son STO entre Cologne et Düsseldorf. À la fin de la guerre, il est resté là-bas quelque temps avant d'installer son épouse à Marseille. Dans le contexte de l'après-guerre, il était logique que moi, leur enfant, je sois plutôt traité de sale boche que de sale arménien. Aujourd'hui, avec cette double appartenance, il y a une chose profondément ancrée dans ma psychologie. Pour faire vite, je viens d'un peuple génocidé et d'un peuple génocidaire. La culpabilité allemande de ma biographie n'a pas plus d'importance que mon statut de victime lié à mes grands-parents. J'ai un besoin intellectuel d'intelligence et de liberté. Souvenez-vous de la fin de la lettre de Manoukian. Je meurs sans haine pour le peuple allemand. Si je dois m'adresser à des Turcs qui n'ont pas entendu parler du génocide, je commence par leur dire « Vous n'y êtes pour rien ». Comme je ne suis pour rien dans les massacres de la colonisation française. Voilà, c'est ça, intelligence et liberté. Une définition de Marseille aussi. Si on me demandait d'écrire un court-métrage dans lequel un vieux monsieur explique à un gamin sa passion pour la pêche, ce vieux monsieur porterait un bleu de chauffe et le gamin serait vêtu de son seul maillot de bain. L'enfant aux pieds nus serait kabyle, et le vieux serait un docker italien. Et ben voilà, on a fini ce que je voulais vous rappeler. Mais on n'arrête pas l'horreur. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la catastrophe bangladaise du Rana Plaza, qui nous a permis de nous saper jolis et pas cher. Trop peu cher. Boycottons, boycottons tous les mangos et autres Benetton, Adidas ou Nike. Il paraît que c'est pas la solution. Ah bon? Alors où est-elle? Dans l'action courageuse des politiques d'ici et de là-bas? Non mais, vous rigolez ou quoi?
Et pour finir ce voyage dans le temps, un petit peu de musique arménienne. Thank you. L'année dernière, pour le centenaire du génocide arménien, nous vous avions présenté 4 autres émissions. Vous pouvez toujours les retrouver sur www.soundcloud.com/chroniquart, comme celle d'aujourd'hui. Reprenons maintenant, si vous voulez bien, les diplodocus. Enfin, les diplodocu au pluriel, c'est-à-dire les documents, bien entendu, du monde diplomatique. Et j'espère beaucoup que les amis du monde diplomatique ne seront pas fâchés. J'ai pas pu résister à cette astuce. Faut bien sourire un peu, hein, avec des thèmes pareils. Voilà. Alors, Afrique 1960, la marche vers l'indépendance, c'est-à-dire les suites de la conférence de Bandung. Entre le milieu des années 1950 et la fin des années 60, la plupart des pays d'Afrique accèdent à l'indépendance, parfois au terme de sanglantes guerres, sans pour autant être décolonisés. Car l'émancipation, processus long et complexe, n'est pas seulement politique, elle est aussi économique, sociale, culturelle et même mentale. La Première Guerre mondiale marque une étape importante dans la remise en cause du système colonial. La barbarie dont font preuve les Européens pendant le conflit confirme aux Africains que la civilisation dont les premiers se targuent relève surtout du mythe. Puis la crise économique des années 30 et la Seconde Guerre mondiale sonnent le glas du colonialisme. Partout en Afrique, des syndicats, et surtout des syndicats, qui ont eu une organisation et un pouvoir énorme, une capacité de formation, d'organisation vraiment extraordinaire. Des syndicats donc, des associations, des intellectuels, des partis politiques réclament l'égalité de traitement et la fin du racisme. Après la chute de l'Allemagne nazie, ils peuvent s'appuyer sur le nouvel ordre mondial, dominé par 2 superpuissances qui se veulent anticolonialistes, États-Unis et URSS, et sur le droit international auquel les autorités coloniales ont elles-mêmes souscrit. Placées en face de leurs contradictions, les métropoles européennes tergiversent. Elles font quelques concessions sociales et politiques, mais répriment durement les mouvements de contestation. Nombre d'opposants sont emprisonnés, voire assassinés. La France mate une insurrection à Madagascar de 47 à 48. Le Royaume-Uni mène une guerre au Kenya contre la révolte paysanne des Momo de 52 à 56. Estimant que l'égalité et la dignité sont incompatibles avec l'impérialisme, les Africains réclament le droit de se gouverner eux-mêmes. Les coups d'État, les ingérences étrangères et les conflits sociaux se multiplient. Alors que le mot d'ordre d'indépendance se répand et que les opinions métropolitaines se mettent à douter de la pertinence du colonialisme, les capitales européennes tentent de maîtriser le processus d'émancipation devenu inévitable. Les Britanniques sont les premiers à comprendre qu'une indépendance contrôlée peut être plus rentable que le maintien d'un coûteux système de domination. Ils libèrent certains opposants, comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Jomo Kenyatta au Kenya, qui deviendront à l'indépendance les premiers chefs d'État de leurs pays respectifs, s'écartant parfois de la ligne édictée par Londres. La France suit le même chemin, mais de façon plus autoritaire. Au moment de l'indépendance de ses colonies africaines, le plus souvent en 1960, elle fait signer aux futurs dirigeants des accords qui amputent les nouveaux États de certaines de leurs prérogatives diplomatiques, économiques, monétaires et militaires. Les dirigeants qui refusent cette indépendance mutilée, comme le Guinéen Sékou Touré ou le Togolais Sylvanus Olympio, s'expose à de graves conséquences. Sylvanus Olympio y a perdu la vie. Pour imposer un tel système, parfois qualifié de France-Afrique, Paris va jusqu'à mener une guerre au Cameroun afin d'écraser le mouvement indépendantiste local de 56 à 64. Si certains pays accèdent à l'indépendance pacifiquement, d'autres sombrent dans des conflits sanglants. La guerre froide qui fait de l'Afrique, continent riche en ressources naturelles, un terrain d'affrontement, envenime la situation. C'est le cas au Congo belge, où une guerre civile éclate en juin 1960, et dans les colonies portugaises, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert, qui ne s'émancipent du joug colonial qu'en 1975. Dans les années 70, presque tous les pays africains sont devenus indépendants, faisant naître sur le continent de nouveaux espoirs et de nouvelles idées dans les domaines les plus variés, politiques, sociaux, artistiques, etc. Mais s'étant arrachés au colonialisme en ordre dispersé, dans les frontières contestées dessinées par les Européens et sous la férule parfois de dictateurs redoutés, l'Afrique demeure fragile et fragmentée. Toujours dominés, les Africains voient se multiplier les ingérences étrangères, les coups d'État, les guerres civiles et les conflits sociaux qui entravent la jouissance d'une liberté enfin retrouvée. Un petit aperçu dans un manuel scolaire camerounais. Tandis que les manuels scolaires français ne traitent que superficiellement des résistances à la colonisation, les livres de classe actuellement diffusés en Afrique francophone et édité par Hachette, y consacre de nombreuses pages. Par exemple, plus la colonisation se développait en Afrique noire et plus la résistance armée devenait difficile. Les Européens confisquaient les armes et imposaient un contrôle toujours plus strict aux régions qu'ils contrôlaient. Quelques chefs guerriers entrèrent alors dans la clandestinité. Aidés de bandes armées, ils pillaient les colons, détruisaient les récoltes, attaquaient les administrateurs et les commerçants en déplacement. Ils étaient aidés dans leur lutte par les paysans. Les populations africaines recoururent souvent à la résistance passive. Elles refusaient de payer l'impôt, de participer au travail forcé, d'effectuer les cultures obligatoires ou de s'enrôler dans les armées coloniales. Elles inventaient mille et un stratagèmes pour échapper aux colons. Certains groupes s'enfuyaient quand l'administrateur faisait sa tournée dans leur village. Maintenant, on les appellerait les désobéissants. Et les contreparties de l'aide aux pays du tiers-monde. Au début des années 80, nombre d'États du Sud connaissent une situation analogue à celle que traverse actuellement la Grèce ou l'Islande. Acculés par le poids de leur dette publique, ils doivent, s'ils veulent éviter le défaut de paiement, demander l'aide du Fonds monétaire international et se plier à ses conditions draconiennes, privatisation, coupes budgétaires, etc. À l'époque, des voix s'élèvent pour demander l'annulation de leurs créances. Le 22 juin 1944, un ensemble de 44 pays décide à Bretton Woods aux États-Unis de créer le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. Pour éviter une nouvelle crise comme celle de 1929, les pays occidentaux mettent sur pied ces deux puissants outils de contrôle. Selon leur fondateur, le FMI doit garantir la stabilité des monnaies et contrôler les mouvements de capitaux. La Banque mondiale doit quant à elle œuvrer à la reconstruction et au développement des pays du tiers-monde. Tout bascule le 15 août 1971. 53 milliards de dollars circulent alors dans le monde, soit 5 fois plus que les stocks d'or des États-Unis. La confiance dans le billet vert s'effrite. En réaction, le président américain Richard Nixon met fin à la libre convertibilité du dollar en or, ce qui débouche sur la variation des monnaies les unes par rapport aux autres. Le FMI père de sa superbe. L'année 1979 marque un tournant dans l'avènement du néolibéralisme, soucieux de mettre un coup d'arrêt à l'inflation qui grignote les patrimoines. Le président de la Banque centrale des États-Unis, Paul Volcker, accroît brusquement les taux d'intérêt américains. La dette des pays du tiers-monde y étant indexée, la mesure provoque une grave crise. En 1982, le Mexique se trouve au bord du défaut de paiement. Le FMI revient alors sur le devant de la scène pour venir en aide aux pays endettés. En échange, il leur impose des plans d'ajustement structurels, privatisation massive, dévaluation, promotion des exportations au détriment des besoins locaux, coupes budgétaires, etc. Le nœud coulant de la dette se resserre et le FMI impose ses choix à la plupart des pays du Sud. Selon Jean Ziegler, l'ancien rapporteur spécial auprès de l'Organisation des Nations Unies sur la question du droit à l'alimentation dans le monde, le service de la dette est le geste visible de l'allégeance. Sur le plan social, le résultat s'avère dramatique. Contestées au Sud, les recettes du FMI trouvent une nouvelle vie au Nord, dans la foulée de la crise financière de 2007-2008. En Europe, il s'allie avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne, BCE, pour former une troïka qui impose l'austérité aux pays en difficulté, Grèce, Irlande, Portugal, Chypre, Espagne, etc. Même si elle veut se présenter sous un jour plus humain, la Banque mondiale fonctionne selon des principes comparables. Dès sa création, elle finance des puissances coloniales comme la France ou les Pays-Bas, alors en guerre contre des peuples en lutte pour leur émancipation. Lors des indépendances, elle organise le transfert de la dette de certaines métropoles vers leurs anciennes colonies. Qui seraient censées payer les dettes des métropoles. Sous la présidence de Robert McNamara, à partir de 1968, elle participe à l'explosion de l'endettement des pays du Sud en finançant les alliés du bloc occidental. Même s'ils sont corrompus et piétinent les droits de l'homme, comme Mobutu en République démocratique du Congo ou Suharto en Indonésie, et en fermant le robinet de crédit à des régimes progressistes voulant rester maîtres de leur développement, comme le Chili de Salvador Allende de 1970 à 1973 ou le Nicaragua sandiniste dans les années 80. Ces deux institutions phares de la mondialisation néolibérale ont toujours été dirigées par des ressortissants américains ou européens. Les États-Unis y exercent un droit de veto, de fait, car ils détiennent plus de 15% des voix, alors que la majorité requise est de 85% pour toutes les décisions importantes. Dès 1972, Allende observe que les peuples du tiers-monde n'ont pas pu s'exprimer à Bretton Woods. Il propose de transformer la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, en institution permanente chargée d'imaginer un nouveau système monétaire étudié, préparé et géré par toute la communauté internationale pour s'occuper du financement du développement des pays du tiers-monde tout comme de l'expansion du commerce international. Jamais, bien entendu, de telles propositions n'ont été écoutées. Et une page du bêtisier du diplôme très importante. C'est en des termes fort peu critiques que le manuel franco-allemand, édité chez Nathan et Klett, tome 2, en 2012, décrit l'impérialisme européen du XIXe siècle. L'Europe est le centre du monde. Ses navires sillonnent les mers du globe. Ses entrepreneurs dominent le marché mondial. Des millions d'émigrants européens répandent aux quatre coins du monde leur langue, leur culture, leurs croyances. Écrivent les auteurs qui ne se préoccupent guère de distinguer les émigrants vers les États-Unis ou l'Argentine des colons. En 2004, le génocide des Tutsis, massacré par les Hutus au Rwanda, est vieux de 10 ans. Cette année-là, Nathan publie un manuel de terminale décrivant ainsi cette tragédie qui fit plusieurs centaines de milliers de morts, plus d'un million de morts aux dernières statistiques nationales du Rwanda. Le Rwanda a connu un génocide entre Hutus et Tutsis. Est-ce qu'on peut imaginer de lire que la Pologne a connu un génocide entre nazis et juifs? Ça s'appelle de la désinformation. Mais heureusement, Adélaïde est venue mettre les choses au point à Toulouse.